Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque et la plume, consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec les Avengers de la critique. J'ai nommé évidemment Charlotte Lipinska, de Vanity Fair, ma chère Danielle Eman, de Bande à part, avec Pierre Murat qui a retrouvé sa voix,
presque.
Pierrot de Télérama, et
je
avec Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession. Et du fan club de Mylène Farmer, ça continue toujours?
Évidemment, il y a un nouvel album qui va arriver au mois d'octobre-novembre, on est d'attaque, ouais, vraiment.
Dès cet automne,
hein. Dès cet automne et peut-être une tournée l'année prochaine.
Peut-être une tournée.
Ouais, ouais. Ce qui fait que je serai moins disponible pour Le Masque et la Plume parce que ça demande quand même beaucoup.
Et je rappelle aussi également accro à Bob l'éponge. On parle ce soir.
Eh ben, je vais pas pécho avec ça. Hein. Pour draguer, ça va être lourd.
Au contraire, ça peut être favorable.
Ouais, c'est compliqué de tout rassembler en une.
Tout dépend de ce que tu vas dire, d'Avengers, d'Otage à NTB, d'Amoureux de ma femme, grand film de Daniel Auteuil, de Comme des rois, de Foxtrot, de Transit et de La route sauvage, où on trouve pas mal de chevaux. Dans le courrier de la semaine, encensé au masque, évidemment, mais provincial, de Jean-Paul Civera, que n'est pas du goût de nos auditeurs, comme ce prof de cinéma qui nous écrit, de Lyon d'ailleurs, cheveux gras, gueule d'enterrement, dialogue lourdeau, pathétique, acteur déprimant et dépressif, sous Xanax, pas de doute, c'est bien un film d'auteur franchouillard. Je suis parti au bout de 30 minutes, laissant derrière moi une salle vide, et Bruno Trezor en rajoute. Michel Simon a dit « C'est un film qui pourrait avoir été fait il y a 30 ans ». C'est bien le problème. Michel, nous sommes en 2018. Garrel et compagnie étaient déjà à périr d'ennui à leur époque. 30 ans plus tard, quelle purge pour Pascal Hénard de Bourg-les-Valences. Il va retrouver sa voix, je suis sûr, Pierre. Mais provincial est trop écrit, trop référencé, trop dans l'entre-soi. En revanche, Alain Garnier de Paris a été emporté par le tourbillon des personnages. Cette éducation sentimentale m'a touché parce qu'elle est à la fois atemporelle et bien dans son temps. Allez, à propos du film d'Agnès Jaoui, bien esquinté au masque. Kevin Bernard de Draveil nous a trouvé un peu dur et gentil, avec Place publique que j'ai vu comme le troisième volet d'un triptyque commencé avec Un air de famille. Et Cuisine et dépendance pour Sylvie Bédé. Place publique est parfait. La scène d'ouverture est magistrale. Pourtant, j'essaie de m'en souvenir.
C'est celle peut-être avec un flash le mec forward avec son... le paysan voisin qui arrive avec la carabine.
L'écriture est juste et le casting parfait. Bon, en revanche, pour Simon Briffaut, Agnès Jaoui se livre à un jeu de massacre en utilisant les clichés et les artifices les plus éculés et ne possède, ça on s'en doutait, ni la grâce de Renoir, ni celle d'Altman. Même sentiment de Joséphine Comte. Si la caméra était un œil, alors Agnès Jaoui doit être myope, tant sa vision du monde est laide, effroyable de bêtises et de méchanceté. Et pour Jérôme Duvivier, c'est même, Place publique, le nanar de l'année, qui ferait passer le sens de la fête pour du Lubitsch. Autre film, L'île aux chiens, a séduit Denis Cadoret de Douai, un bonheur de chaque instant, aussi bien esthétique que scénaristique. Pour Nino de Besançon, L'île aux chiens, eh bien, c'est formidable. Ayant 15 ans et ayant emmené mon cousin de 6 ans, je peux vous dire que nous avons grandement apprécié ce bijou d'animation et avons tout compris, bien qu'étant mineur. Ça, c'est formidable, ça, non ? En revanche, le film de Wes Anderson a déplu à Patrice Piche de Toulouse qui parle d'une fable triste, moche, vaine, frelatée, sans personnage ni émotion, un très mauvais film. Patrick Geoffroy, qui habite New York, trouve navrant qu'à propos de Madame Hyde, Daniel Eman avoue sur les ondes du service public quand même. se foutre de ce qu'est une cage de Faraday. Or, c'est précisément cet obscurantisme de bon ton que pourfend, et avec une certaine grâce, le film de Boson.
Je suis nulle au tableau, Daniel. Je suis désolée.
Au tableau.
C'est pas bien.
Non, c'est pas bien.
Vous avez raison, Patrick Geoffroy. Le troisième Avengers, Infinity War, d'Anthony et de Joe Russo. Ils sont mis à deux. Le nouveau et très coûteux blockbuster des studios Marvel, 19e de la franchise, et dont le budget est historique, même si pour moi ça ne veut rien dire. 480 millions de dollars. On me dit que c'est le plus gros budget du cinéma.
C'est déjà pas mal quand même.
Ça correspond à quoi ? Pour moi, c'est quelque chose.
C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est beaucoup. Ah ben, je pense que mal. Ça prend en considération la production de la deuxième partie de ce film-là. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait un seul film qui a coûté 480 millions. Ils sont déjà en train de tourner la suite et je pense même qu'elle est finalisée.
Non, mais j'ai un petit chiffre. Budget,
oui, oui c'est chiffre. Ça fait que 240 millions
d'euros. De quoi se plaindre ? Il y a un chiffre qu'on comprend pas. Oui. Alors, je vais donner un autre chiffre qu'on comprend pas, mais quand même, en comparant les deux, c'est important. Ce film aux États-Unis a fait le plus gros démarrage de tous les temps.
Oui.
Et la première semaine, il a rapporté 2 598 953 dollars. Donc, pratiquement.
Moi, j'adore le 53 dollars.
Attends, redonne ton chiffre.
C'est que les bons dollars, c'est pas possible. Si vous voulez.
2 588 953 dollars.
Mais non, ils en sont à 653 millions.
Bon, écoutez, on va parler du film. Hein.
La première semaine.
Donc, je rappelle que les Avengers doivent neutraliser le redoutable, tyrannique Thanos, c'est Josh Brolin, avant que son attaque éclair ne conduise évidemment à la destruction complète de l'univers. Alors, il y a Mark Ruffalo, il y a Scarlett Johansson, les fins de mois sont difficiles, il y a Tom Holland, il y a Robert Downey Jr., attention, Karen Gillan, il n'y a pas Mylène Farmer d'ailleurs, il y a Chris Pratt.
Non, mais elle a inspiré beaucoup de personnages, justement, le personnage de Karen Gillan est toute rousse comme ça, très en mouvement, très aérienne. Moi, je suis sûr qu'ils ont pensé
très
à Mylène.
En la faisant.
Ah, oui, sûrement, ah, on est d'accord, oui. Hein, merci.
2h30, 2h30 de combat quand même.
35, en plus, il faut rester jusqu'à la fin 35. Du générique pour avoir la dernière.
Et il faut quand même dire qu'on croise aussi bien Spider-Man qu'Iron Man,
mais oui.
Et Thor que la Veuve Noire, que j'aime beaucoup. Xavier, tu as aimé ?
Mais oui, moi je me suis plutôt bien amusé. Ouais. Le précédent Avengers m'avait ennuyé, je n'y avais strictement rien compris, l'ère d'Ultron, enfin bon bref, c'est hyper compliqué, un programme qui devenait autonome, qui tuait tout le monde, enfin bon bref, aucun intérêt. Là au moins, 2h35, parce qu'encore une fois, il faut rester jusqu'au bout du générique, il est un peu long, hein, 10 minutes quand même, on a le temps de s'ennuyer un tout petit peu. Mais on a droit à une dernière séquence qui pourrait être une piste pour la suite, puisque c'est un premier épisode d'un film en deux parties. Mais c'est ce qu'on attend quand on va voir un film d'Avengers, c'est-à-dire que ça va dans tous les sens, c'est hyper virtuose en termes de mise en scène.
Virtuose.
Le scénario. Ah bah oui, faut dire que quand même ils font très très bien les choses. Il y a énormément d'effets spéciaux qui sont réussis. On a même l'impression que Scarlett Johansson s'est jouée. Donc imagine un tout petit peu à quel point les effets spéciaux sont réussis. Ah si, elle a trois expressions. Attends, c'est une de plus que d'habitude. Ils ont vraiment mis les moyens.
C'est la 3D, ça.
Voilà.
C'est la 3D.
Mais après, quand on aime Marvel, quand on aime les super héros, quand on aime cet univers qui est un peu revisité par Disney, qui a apporté de l'humour, mais humour qui va être contrebalancé par la noirceur quand même de cet épisode. Là, et ben ça fonctionne. Au début, je me suis dit, il y a 67 personnages, je ne vais rien piger. Mais comme le méchant Thanos doit récupérer 6 pierres d'infinité pour pouvoir justement dominer le monde et éradiquer la moitié de l'humanité.
Il a mieux compris que moi. Hein.
Oh, oui, que moi.
Mais donc. Oui, parce que lui, c'est un partisan de l'équilibre. Donc il dit, pour ramener l'équilibre dans le monde interplanétaire, il faut tuer la moitié de toutes les populations. Oui. Donc voilà, il a raison. Enfin, je veux dire, ça se discute, en tout cas. On trouvera des noms, de toute façon, s'il faut vraiment fournir une liste. Donc il collecte ces 6 petites pierres, et à chaque fois, évidemment, il a 3-4 super-héros contre lui. Donc on comprend relativement facilement, parce que en fait, c'est 6 petites histoires autour de chaque
pierre. Tu as compris, Daniel
voilà. Donc, c'est pas très ambitieux en termes de scénario, mais tu veux je m'arrête là.
Oui, on va arrêter.
Oui, c'est ça. Voilà, c'est de la censure.
Daniel, tu n'as pas compris, toi.
Non, alors je n'ai pas compris. Alors, il faut bien dire que je suis une analphabète en matière de super-héros.
J'ai et pas... aussi de cage de Faraday.
Et aussi, donc je suis très très nulle.
Ça fait beaucoup quand même.
Oui, ça fait beaucoup, je suis désolée. Et donc, je n'ai pas mon agrégation Marvel. Et donc, effectivement, je suis entrée dans ce tohu-bohu absolument hallucinant. Je n'ai reconnu personne.
Ah, si,
je n'ai
même.
Pas. Non, non, mais j'ai pas reconnu les acteurs.
Spider-Man, t'as reconnu.
Alors, le petit Spider-Man, j'ai fait, oh, je le reconnais, c'est le petit Spider-Man. Ah, celui-là, il est vert.
Tu as reconnu.
Ah, non, je crois pas. Et donc, là, il est un peu vert, ça doit être Hulk. Oui, ça, bravo. Et donc, à un moment donné, j'ai pu chercher à comprendre. Et j'ai trouvé que c'était formidable. C'était une époustouflante hécatombe. Je comprenais rien. Je ne savais pas qui était qui. Il y avait un raton laveur qui conduisait un vaisseau spatial et qui s'appelait Lapin. Voilà.
Arrête avec ton renard, c'est un raton laveur, Charlotte. Et donc, c'est dingue quand même.
Et donc j'avais regardé quand même le générique, j'avais vu qu'il y avait des acteurs considérables. Et Josh Brolin, bon, il est le méchant qui s'appelle Thanos. Thanatos, évidemment, et qui veut tuer tout le monde, et il est tellement en 3D qu'il est totalement méconnaissable. Donc, je veux dire, je n'ai rien compris et j'ai adoré.
Pierre ?
Bah, moi, plus nul, je suis plus nul que toi en Marvel, Daniel, c'est pas possible. Moi, c'est le degré, mais alors zéro.
C'est pas ton genre tellement. Hein.
C'est pas du tout. Non. Mais alors, pas du tout.
C'est pas du cinéma russe orthodoxe et. Voilà. Ah, c'est sûr. Mais
on peut aimer les deux.
On est très loin.
Tu as tout compris. C'est pas du tout, du tout pour moi. Donc j'y allais pour te faire plaisir.
C'est gentil.
Voilà, c'est
bien aimable.
Voilà, bah voilà. Et donc, je dois dire que je m'attendais à ne rien comprendre comme Daniel. Et c'est tellement bête que j'ai tout compris, quoi. Parce qu'en effet, tu as raison.
Merci beaucoup.
Non, pardon. Non, mais c'est tellement bête que. Non, mais tu as fait des efforts pour ne pas comprendre. Parce que Thanos, qui veut tuer, en effet, la moitié de l'humanité pour la sauver, parce qu'il y en a trop. Une fois que tu as compris qu'il veut récupérer les six, tu es tranquille dans ton fauteuil. Tu ne comprends rien, bien sûr. Mais tu t'en fous. Parce que qu'est-ce qui est important? C'est qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils se disputent, les jalousies entre.
Oh, c'est disputer, vrai, hein. T'as tout compris. Pardon.
C'est plus que se disputer.
Oui,
hein.
Ils commencent par se disputer, c'est ils sont jaloux l'un de l'autre. Donc je me suis dit, ah tiens, moi, Pierre, qui n'y connaît rien, j'arrive à suivre, et j'ai suivi. Alors je dis pas que les bagarres intergalactiques, au bout de la troisième, n'ont pas légèrement pompé l'air. Ça, ce serait mentir. Mais, par exemple, je me suis beaucoup moins ennuyé que dans certains Star Wars récents où je ne comprenais rien.
Il y en a un qui arrive
rien.
Dans 15 jours.
Là,
hein,
oui, mais rien.
Je sera même à Cannes.
Mais rien. Là, j'ai trouvé ça presque limpide et plutôt rigolo.
Mais oui, Charlotte. C'est limpide et puis quand même, c'est tellement spectaculaire.
Toi.
Oui, j'ai compris, mais aussi parce que le ressort est très simple. Ce méchant Thanos dont on parle, il part d'un constat qu'on peut tous partager. La planète est surpeuplée, il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde. Alors, comment on fait?
Oui, désinguons la moitié.
Il se trouve qu'il a une solution assez radicale, qui est tout à fait discutable.
Moi, je ne suis pas contre cette solution-là.
Mais... la moitié de l'humanité.
Donc, envisageons-la et on verra après si c'était une bonne ou une mauvaise
alors,
idée.
Alors, il essaye, manque de bol pour lui.
Si on garde Nadine Morano, c'est une mauvaise idée, c'est sûr.
Qui sont sur son chemin et qui vont un peu lui compliquer la tâche. Moi, j'étais assez surprise par la noirceur de la dernière partie du film à laquelle on ne s'attendait pas forcément. C'est-à-dire que ce héros, il est.
Oui, mais
pas...
on ne va pas la raconter.
Non, je ne vais pas la raconter, mais il y a une certaine mélancolie et noirceur à laquelle on ne s'attend pas. Et par ailleurs, je trouve les scènes de combat totalement spectaculaires, extrêmement bien filmées. Ce n'est pas un montage stroboscopique où vous avez un quart de seconde par plan.
Ça prend le temps quand même de voir tous les mouvements.
Ça prend et puis, surtout, quand même, non, mais toutes les batailles. Alors bon, Thor, on connaît tous son gros marteau magique, là, il faut refaire la Syrie pour qu'il soit si fort.
Tu peux nous expliquer le gros marteau magique de Thor?
Oui, le gros marteau magique de Thor.
Mais les minutes que tu as fait, dès que
ça marche plus, à chaque duel, ils sortent tous des engins dans tous les sens.
On se calme, Charlotte, on se calme.
Le marteau, l'engin, c'est bon.
On est surpris. Je veux dire, c'est pas répétitif.
Mais je vais y retourner,
Des drôles de trucs. Vous n'avez pas tout vu. Non, mais vraiment, on prend son pied, quoi.
Bon. Je suis sûr que c'est pas préparé, ça. Bon, Avengers, est-ce qu'il y a des témoignages? Non, personne.
Et c'est drôle, on l'a pas dit, mais il y a des punchlines, les répliques sont quand même assez drôles.
C'est ce que j'ai essayé de dire. Il y a quelques acteurs et actrices assez sexy, quand même. Benedict Cumberbatch,
on se calme. Otage ANTB, c'est moins drôle. Au moins, le titre est clair. Hein. José Padilla, le réalisateur brésilien de Troupe d'élite et du remake de Robocop, qui sont deux films de chevet de Pierre Murat, façon film catastrophe, le détournement le 27 juin 1976 du vol Air France en provenance de Tel Aviv via Athènes et en route vers Paris. Il transportait 246 passagers, 12 membres d'équipage, 4 terroristes, 2 membres du Front populaire de libération de la Palestine et 2 Allemands, dont d'ailleurs le bras droit de Carlos. détourne donc le vol vers NTB en Ouganda et réclame la libération de 53 prisonniers palestiniens. Et Israël lance aussitôt une opération pour sauver les otages. Là, au moins, on connaît la fin, même si on ne va pas la raconter. Pierre, mais qui ne l'a pas vu.
Donc, je ne voudrais pas. Je voudrais bien, mais je peux point. Là.
Avec Daniel Brühl et Rosamund Pike dans les rôles des terroristes allemands, l'anglais Eddie Marsan qui joue Shimon Peres, Lior Ashkenazi et Yitzhak Rabin. Ça dure 1h47.
Et Denis Ménochet, bien sûr, assez important, le comédien français.
Reste que l'action finale entrecoupée d'une chorégraphie d'Ohad Naharin m'a provoqué chez moi un malaise dont je ne me suis pas encore tout à fait remis. Charlotte.
Oui, c'était plus qu'un malaise. C'est-à-dire que c'est peut-être la pire idée de mise en scène qu'on ait vue ces derniers mois au cinéma. C'est-à-dire que le film...
On avait vu ça une fois chez Spielberg, dans un film à la toute fin qui était très très gênante.
Oui.
Et un peu ambigu. Mais bon, là c'est...
C'est même pas que ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Ça paraît carrément indécent de faire ce montage parallèle entre l'assaut des militaires israéliens qui vont donc tenter de libérer les otages et en montage parallèle des danseurs qui rentrent en scène un soir de première. C'est quand même complètement dingue. Par ailleurs, cette chorégraphie, c'est une chorégraphie extrêmement célèbre donc de Naharin qui est très emblématique des années 2000. On est censé se passer en 76 et rien ne nous dit qu'il y aurait deux espaces-temps. Donc c'est assez troublant. Et moi, ça m'a totalement gâché le film qui, par ailleurs, a plutôt une reconstitution assez correcte. Le réalisateur n'a aucun point de vue, donc il garde une espèce de neutralité. On est tant du côté des terroristes que du côté un peu diplomatique entre Yitzhak Rabin et Peres, faut-il intervenir ou pas, et du côté des otages aussi. Donc on passe un peu de l'un à l'autre dans une reconstitution extrêmement classique, mais qui n'est pas dénuée d'efficacité pendant la première partie du film.
Non, mais qui est quand même dénuée de relief de manière assez sidérante.
Totalement, c'est extrêmement convenu, encore plus quand on connaît la fin donc, de ces faits historiques. Mais pour moi, vraiment, José Padilla, il perd tout son crédit avec ce parallèle sur la danse contemporaine qui n'est pas qu'une fois. Il faut bien comprendre c'est tout au long de la deuxième partie du film.
La fin est mixée.
Et parce que la petite amie d'un des militaires est danseuse, alors il y a cette chose de pourquoi tu danses, pourquoi tu vas faire la guerre, je vais faire la guerre pour que tu aies le droit de danser. Enfin bon, c'est d'une lourdeur terrible.
Et Charlotte fait les mouvements chorégraphiques qui vont avec.
Oui, il faudrait des chaises.
Une catastrophe.
Mais c'est un film catastrophe.
C'est un film catastrophe, mais... Il y en a des bons. Ça, c'est effectivement la reconstitution même est d'une lourdeur, d'une platitude. D'un côté, de l'autre, les otages, les terroristes, l'avion qui se pose. Mais vous savez, les terroristes ont quand même des états d'âme, il faut pas croire. Mais je veux dire, tout ça est surligné, tout ça n'a pas d'élan, tout ça n'a pas de profondeur. Et je veux dire, c'était un événement historique considérable, déchirant. Et on se dit, mais oui, il y a la matière à un grand film. Oui, mais même à quelque chose qui est du domaine du documentaire, si tu n'arrives pas...
Reste que pourquoi faire ça aujourd'hui
À incarner tous ces gens. Je veux dire, moi, j'ai été catastrophée. Alors, la métaphore du ballet contemporain, avec... ils portent tous des costumes de juifs orthodoxes. Il y a un danseur qui n'arrête pas de tomber de sa chaise, parce qu'effectivement...
La fameuse,
elle tombe de sa chaise et puis elle remonte et elle retombe de sa chaise. Effectivement, il y a un problème en Israël. Est-ce qu'il fallait intervenir, pas intervenir, etc. Mais tout est tellement surligné et tellement lourd que franchement, je trouve que cette intervention de danse contemporaine est carrément plus que gênante, indécente. Et vraiment, moi, j'ai été consterné.
Xavier.
Je ne vais pas en rajouter, elles ont tout dit, je crois, avec éminemment de justesse. De toute façon, je préfère qu'il n'ait pas de point de vue, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit là, parce que quand il en a, on se souvient de Troupe d'élite, qui était quand même un film qui recensait de manière à peine voilée les exactions de la police dans les favelas au Brésil. Donc, on préfère qu'il se taise, qu'il n'ait pas trop d'idéologie. Oui, Daniel Eman.
Je fais une toute petite parenthèse, il a fait un documentaire très intéressant qui s'appelait Bus 174,
oui, absolument.
Qui était une prise d'otage d'un bus au Brésil et qui était un vrai documentaire très bon.
On ne peut pas tout rater, de toute façon. Même Robocop, il avait complètement pris le film à contresens par rapport à ce que voulait dire Verhoeven dans le film original. Donc vraiment, c'est un pas bon de toute façon. Donc là, on a une caméra explore le temps où tout est garanti patine d'origine. Hein, les costumes, les faciès, la lumière, le grain de la
l'avion.
L'avion. Non, vraiment, il manque pas un grain de poussière. Il manque de la dramaturgie. Effectivement, il a confié aux deux très jolis, très gentils. Tu vois, vraiment, il ferait de mal à personne, Rhonda Moonpike et Daniel Brühl, le rôle
des terroristes.
Des terroristes, ils font peur à personne. Puis ils sont pleins d'atermoiements, ils sont pleins d'émoi, ils se demandent s'ils font bien, s'ils font pas bien, c'est pas gentil ce qu'ils font, mais en même temps ils font, mais en même temps il faudrait pas faire.
Alors qu'il fallait prendre Mylène Farmer, elle aurait été formidable comme.
Mais tu sais que tu me donnes des envies. D'ailleurs, on va mettre Mylène Farmer dans tous les films français. Tu vas me cacher comme ça toute la soirée, toute l'année et tout. Fais attention, hein, que je suis très susceptible sur le sujet. Après, moi, j'irai pas jusqu'à indécence pour la chorégraphie, je trouve ça juste con. Parce qu'effectivement, on a bien compris que la chorégraphie, c'est une manière de dire que, voilà, Israël ne fonctionne pas bien et que les gens qui résistent à cet endoctrinement.
Oui, toi, là, vous avez compris. C'est pire que bête, Xavier.
Mais non, mais c'est ça. Mais ça apporte. Alors, moi, je l'ai pas ressenti comme ça. J'ai trouvé que simplement, il essayait, en greffant cette chorégraphie, d'apporter un tout petit point de vue politique, mais très prudent, très, très générique, très rentre-dedans.
Les indulgents. Mais enfin, souviens-toi, il y a quand même deux plans coup sur coup, avec ces militaires qui descendent de l'avion pour un assaut meurtrier.
Bien sûr, je te l'accorde.
Et des danseurs qui rentrent en scène.
Vraiment, la métaphore.
Bon, de toute façon, le film est vraiment d'une balourdise sans nom, quoi, et d'une inutilité par rapport à son sujet absolu.
Tu n'iras pas, Pierre ?
Non.
Otage à NTB de José Padilla. Pas de réaction sur ce film avec autant de chevaux, mais très loin, pour moi en tout cas, du film de Chloé Zhao, The Rider. Je ne sais pas s'il est encore à l'affiche, mais qui est un film...
Il n'a pas très bien marché.
On peut le voir dans quelques salles encore.
Voici donc La route sauvage du Britannique Andrew Haigh, d'après le roman de Willie Vlotin, avec Charlie Plummer, Steve Buscemi, Chloé Sevigny. La longue histoire, deux heures, hein, d'un garçon de 15 ans en cavale, Charlotte Thompson, qui bosse dans l'Oregon chez un entraîneur de chevaux de course et qui se prend d'affection, je peux le comprendre, pour un pur sang, même s'il ne ressemble pas à un pur sang, en fin de carrière et qui est promis au couteau, qui porte un beau nom d'ailleurs, Lennon Pitt. Et c'est avec lui qu'il va s'enfuir pour tenter de retrouver dans le Wyoming une tante lointaine qui lui donnerait le foyer qu'il n'a jamais eu. Soit quand même 2000 km de route dans un pick-up volé qui tracte donc le vent chargé du vieux cheval. C'est un mélo au moins avoué, ouvert, qui reçoit un très bel accueil de la presse. Ce qui n'a pas été sans me surprendre un tout petit peu, Pierre.
C'est
ton journal partie, très élogieux d'ailleurs pour ce film.
Oui, oui. La première partie, je la trouve en effet très émouvante, c'est-à-dire la prise de conscience de l'amour que ce Charlie Plummer, qui est une sorte de résurrection de River Phoenix. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à River Phoenix, je trouve. Voilà. Ce qui se passe entre lui et le cheval, tout ce qu'il apprend de la vie des personnages interprétés par Chloé Sevigny et Steve Buscemi, ça me plaît beaucoup. Le fait qu'il s'évade, qu'il commence son odyssée, ça dure une bonne partie, la moitié du film, et ça, je trouve que c'est fait avec sensibilité et délicatesse. Bon. Après, le problème, Jérôme, tu l'as dit, c'est que ça dure deux plombes. Ça dure deux plombes et on les sent passer. Alors, la sensibilité, la délicatesse, à la longue, finissent par s'émousser. Et puis, je suis tout à fait d'accord. Manque de bol pour le film. Trois semaines avant, on avait vu The Rider.
Surtout sur ce genre d'histoire, on l'a vu mille fois au cinéma.
Oui, alors on l'a vu mille fois. Tandis que, évidemment, The Rider, qu'on en profite tous pour vous recommander, si par hasard vous ne l'avez pas encore vu, qui était vraiment sur un sujet presque pareil, mais tout à fait différent, une merveille, un petit chef-d'œuvre. Là, on est quand même loin du chef-d'œuvre. C'est un film sympathique. Encore une fois, oui, sympatoche, presque.
Sympatoche même.
Avec un acteur que j'aimerais suivre comme ça, parce qu'il me semble qu'il a une présence assez forte. Et puis...
Un cheval qui joue assez bien, d'ailleurs.
Et voilà. Mais il faudrait apprendre au réalisateur, qui est d'ailleurs un réalisateur très divers, parce qu'il a fait un film gay pour commencer, après il a fait un film avec Charlotte Rampling, qui s'appelait 45.
Ah, 45 ans.
Donc il est très 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 divers dans l'univers. Il faudrait lui apprendre à resserrer un peu.
Xavier.
Qu'est-ce que j'aime pas ça, qu'est-ce que ça m'ennuie, mais qu'est-ce que je passe à côté du film, je vois toutes les ficelles du scénario, et elles sont nombreuses, et elles sont épaisses, et elles sont bienvoyantes, et elles arrivent au bon moment. C'est-à-dire que c'est quand même sans famille d'Hector Malot avec un canasson et un gamin qui est joli à regarder.
Un canasson, un cheval.
Un cheval, bon, et un gaminot qui est joli à regarder, qui n'a pas beaucoup d'expression. Et alors, il lui arrive comme ça une succession de petites histoires qui vont le pousser à prendre la route. Alors, il va lui arriver plein de malheurs. Papa qui couche avec la mauvaise personne et qui, du coup, va se faire maltraiter par le
trauma.
Le
trauma est paternel, évidemment.
Ah, bah, le trauma est toujours paternel, évidemment. Non, si, dans les films américains, depuis Luke Skywalker, tous les traumas sont paternels. Faudrait
depuis
qu'il renvoie
Luke Skywalker, tu peux aller bien.
Oui, bon, ça bon, à partir d'un moment, relancer la machine du trauma papa.
Tu es venu avec tes parents ce soir?
Oui, oui, ils sont là. Bien sûr. J'en profite, tu sais, une fois par mois pour balancer un truc comme ça en loose day.
En loose day.
Bon, ça c'est fait.
Il va prendre la route, donc il va croiser effectivement.
Mais il te ramène après à la maison
ou pas? Non, après il ne veut plus me parler. Steve Buscemi et Chloé Sevigny. Alors le cheval, justement. Mais bon, ah là là, le cheval il est malade, alors peut-être qu'on ne va pas le garder. Mais non, alors le gamin il va prendre le cheval, il va traverser les États-Unis et il va lui en arriver plein de malheurs. Puis alors à un moment, il y a un truc, tu ne sais pas pourquoi, le pauvre cheval, il va lui arriver un truc, bon, pas grave, mais vraiment on a l'impression que le scénariste a appelé le metteur en scène, lui dit, on se fait chier, tu vas peut-être relancer
livre,
un peu l'action.
C'est très fidèle au livre quand même.
C'est possible, mais ça ne fonctionne pas en termes de cinéma, moi j'ai pas lu le bouquin.
La première partie, si.
Et je suis désolé, mais il y a un moment, et en plus, il veut tirer ça vers le joli, vers le tendre, vers l'empathique, vers le... Mais il faut de l'aspérité, il faut de la violence, et on la ressent donc. Qu'à un moment, y compris quand ils croisent le personnage de Steve Zine à la fin, qui pourrait être un personnage plus toxique, plus violent. Et pareil, tout ça se résout en 3 minutes. C'est vraiment pas intéressant, quoi.
Je crois que Charlotte et moi, nous sommes des cœurs tendres.
Parce que
on vous trouve très
sévère. Alors, Daniel Ehman.
Moi, j'aime beaucoup ce cinéaste. Je trouve que le mot qui lui convient, c'est délicatesse. J'avais adoré 45 ans. Bon, effectivement, le 45 ans de mariage, ça se passe pas comme ça devrait. Et je trouve qu'il traitait ça avec une délicatesse, une douceur. Et j'avais beaucoup aimé ce film. Et dans cette, évidemment, ce road movie, cette épopée à travers des paysages pas passionnants de l'Oregon, et cette solitude de ce petit garçon de 15 ans.
C'est un ado, c'est pas un petit garçon.
C'est un ado. Enfin, je veux dire, il est vraiment très, très petit dans sa tête et il n'a plus personne. Il est débrouillard. Voilà.
Mais s'il a son cheval.
Eh ben oui, il a son cheval, justement. Et c'est ça, c'est un couple que je trouve tout à fait pertinent, tout à fait cinématographique, tout à fait tendre. Et cette espèce de rêve d'une tante inconnue, il n'a plus de maman, il n'a plus de papa, il n'a plus personne.
Il a une tante qui va rechercher.
C'est ce que je dis. Et donc, non, j'ai trouvé que ce film avait du charme. Bon, il est long, mais l'épopée de ce jeune homme est longue aussi. Oui. Et moi, je me suis intéressée. Je trouve que le jeune Charlie Plummer est absolument magnifique. Et voilà, et moi j'ai pris un grand plaisir tendre et doux à ce film.
Charlotte ?
Mais je dois avoir le même cœur tendre que Daniel, parce que moi aussi je me suis laissée embarquer dans cette histoire que je trouve assez étonnante, parce qu'il la filme avec beaucoup de douceur, alors qu'il y a quand même, ce jeune garçon va traverser des choses assez cruelles et violentes. Et malgré tout, c'est pas du tout un film brutal, rentre-dedans. Ça reste dans une certaine douceur. Et on peut le lire comme un récit d'apprentissage.
C'est un peu assez pisé quand même, Charlotte.
C'est un récit d'apprentissage où l'idée n'est pas tant de grandir que de trouver un foyer et une stabilité. Et ce que je trouve assez beau, c'est comment ce gamin, alors effectivement incarné par Charlie Plummer, et il est vraiment formidable, cet acteur, on a envie de le suivre, va transférer son affection vers différentes figures paternelles. Alors son père au début, puis quand son père disparaît, il reporte son affection sur ce dresseur de chevaux, Steve Buscemi. Et là, après, il va aussi falloir qu'il la reporte ailleurs, en l'occurrence sur ce cheval. Et ce que je trouve assez beau, c'est que le cheval n'est pas du tout personnifié. C'est-à-dire que c'est une relation très unilatérale. Le garçon lui parle. Non, mais je veux dire, on pourrait attendre parfois dans le cinéma américain, on voudrait nous montrer une espèce de communication à deux. Or là, pas du tout. Le gamin, la parole se libère. Il est tout seul avec son cheval. Il parle, et il va se décharger du fardeau de son enfance. Donc c'est un peu long, certes, mais je trouve que c'est quand même un très joli voyage.
La route sauvage de Andrew Haigh. Pas de réaction sur ce film. Il y a 2 ans, au Théâtre de Paris, Daniel Auteuil, je ne sais pas si vous l'aviez vu comme moi, jouait et mettait en scène une pièce de Florian Zeller qui s'appelait L'envers du décor. qui n'était pas d'ailleurs sa meilleure. Il y jouait Daniel, un éditeur qui convainc sa femme Isabelle, au théâtre c'était Valérie Bonneton, d'inviter à dîner leur ami Patrick, ainsi que sa nouvelle compagne Emma, pour laquelle il a quitté sa femme. Un couple qui fait vaciller celui de Daniel et d'Isabelle. La pièce aux accents très ouvertement boulevardiers, d'ailleurs écrite à l'époque pour Auteuil, hein, avait, comme souvent chez Zeller, des apartés, des non-dits qui, tu l'avais vu aussi...
Oui, c'était le mécanisme de la pièce.
Qui la sauvait. Rien de tel dans Amoureux de ma femme, l'adaptation par Daniel Auteuil, donc de cette pièce de Zeller. Et cette fois, Daniel Auteuil est marié, non plus à Bonneton, mais à Sandrine Kiberlin. Et dans le rôle du copain, évidemment, c'est Gérard Depardieu, flanqué de la jeune Espagnole Adriana Ugarte, qui tape dans l'œil d'Auteuil. C'est vrai que la pièce nous avait, je pense que tu étais comme moi, préservé d'une vulgarité que le film semble exposer avec une sorte de complaisance sidérante, non ?
Ben, c'est assez fascinant, c'est-à-dire Charlotte. Que déjà avoir l'idée d'adapter cette pièce qui est quand même pas terrible, elle pouvait marcher sur des ressorts de boulevard et ses apartés au public.
Ça marchait pas vraiment.
Voilà,
théâtre,
ça marchait pas des masses, mais bon, il y avait quand même l'abattage des comédiens. Bon, la soirée était pas totalement foutue. Mais là, comment à partir d'une pièce pas terrible, on fait un film aussi nul ? C'est un mystère, c'est-à-dire que à part filmer chant contre chant d'une platitude absolue, il n'y a aucun rythme, c'est pas drôle et même aucun suspense, puisque la pièce fonctionne. Enfin, là, le film, on voudrait nous faire croire que donc ce que Daniel Auteuil se marie quand il le marie quand il voit cette belle jeune fille fantasme sur elle. Arrive des scènes et le film entretient un certain mystère pour le spectateur. Est-ce qu'il fantasme ou est-ce que c'est vraiment ce qui se passe ?
Dans la pièce, on entendait les pensées des différents protagonistes.
D'où le titre, l'envers du décor, effectivement. Et là, à partir du moment où, dès la première scène, on comprend que c'est un fantasme, toute cette mécanique-là, elle est dévoilée au public dès le début. Alors, ce vague suspense, partira pas, il suffit de voir le titre, hein, Amoureux de ma femme. Dans le genre, tout est dit dans le titre, ça se pose là. Vraiment, je ne comprends pas ce film.
Ce sont pas les bites sur celui-là. Hein.
Allons vite. Et Gérard Depardieu, quand même, je trouve, est très soft. Il n'en fait pas 3 kilos caisse. C'est presque le plus effacé du quatuor, très étrangement.
Xavier. Alors, moi, je n'avais pas vu la pièce. J'étais assis à côté de Daniel Emma dans une projection de presse. On a esquissé quand même 2-3 sourires. Il y a 3 répliques et 2 situations qui nous ont... moi, j'étais vierge, hein, pour une fois. Enfin, en tout cas, depuis longtemps.
Toi, tu étais vierge ?
Oui, voilà. Ça m'a rappelé de lointains souvenirs. Après, c'est pas bon, ça. Évidemment, on va pas le nier, on va pas le mentir. Il y a quand même un génie comique dans le film. C'est Sandrine Kiberlin. Elle est absolument fort.
D'abord,
j'ai le droit d'aller fort.
Mais là, quand même,
elle est absolument formidable. Elle a un sens de la rupture. Et ben même, c'est d'autant plus extraordinaire qu'au service de rien, elle est formidable. T'imagines un tout petit peu.
Valérie Bonneton était pour le coup dans
ce. Mais Kiberlin est très bien. Elle a un sens de la rupture. Elle a un sens de l'autorité. Elle a un sens comme ça. Moi, elle me rappelle à chaque fois Jacqueline Maillan, un petit peu plus mince, heureusement pour Sandrine Kiberlin d'ailleurs. Mais je trouve qu'elle a cette manière.
Je vais t'emmener avec nous au théâtre quand même. Oui.
Mais j'y vais au théâtre. C'est pas la peine de me prendre pour un naïf ou un candide ou un vierge encore une fois. Mais je trouve Kiberlin mais absolument formidable dans le film. Et moi, vraiment, elle est la raison pour laquelle, de temps en temps, ça m'a amusé.
Pierre ?
Tout le monde est très mauvais.
Non, pas Sandrine !
Même Venise, on a rarement vu Venise aussi mal filmé.
Tout le monde est très mauvais.
Non, pas Sandrine.
Auteuil, que j'aimais vraiment bien il y a quelques années comme comédien, comme réalisateur, a toujours été plutôt moyen. Là, c'est une catastrophe parce que c'est vrai, tu as tout à fait raison. Chant contre chant, chant contre chant. Et le procédé qu'ils ont donc choisi, le fantasme, fait que à toutes les 5 minutes, c'est mais qu'est-ce que tu viens de dire donc ils sont obligés de répéter les répliques, déjà qu'ils sont pas drôles une deuxième fois, pour bien faire comprendre. C'est une catastrophe absolue. Je pense même qu'il y a certains films, il y a très longtemps, dans les années 50, il y avait beaucoup de vaudevilles comme ça qui étaient transformés en films, genre 13 à table, les œufs de l'autruche. Mais revoyez ces films-là, c'est 10 fois mieux fait, avec des tâcherons des années 50, que par Auteuil. C'est une catastrophe.
Oui, mais il n'y avait pas Sandrine
Daniel,
elle est mauvaise comme tout. Enfin,
elle est formidable.
Bon,
il
n'y
a
pas
Mylène Farmer dans ce film. Mais non, il n'y a pas besoin, il y a Sandrine Kiberlin.
On peut aller vite, effectivement. La jeune Adriana Ugarte, qui est absolument ravissante, c'est quand même la Julieta de Pedro Almodóvar.
Mais elle est presque, c'est presque caricatural.
Alors, non, ce qui est complètement fâcheux, c'est qu'au cinéma, passer de la réalité au fantasme, le cinéma peut se permettre ça.
Oui.
Seulement, malheureusement, là, il n'y a pas de cinéma. Alors, effectivement, ça tombe complètement à plat. C'est, voilà, c'est le,
et ça
c'est...
ruine le rythme du dîner.
Oui, non, mais voilà. Donc, il n'y a pas de cinéma. Il y a effectivement du théâtre filmé. Mais voilà, on se dit, effectivement, la pièce devait être drôle.
Eh bien, c'est Amoureux de ma femme de Daniel Auteuil. Comme des rois, le troisième film de l'écrivain Xabi Molia, avec Kad Merad, Kassemot Eklin, Sylvie Testu. Et Kad Merad, eh bien, c'est Joseph, un peu une sorte de Xavier Le Herpeur, le roi de l'escroquerie, qui est menacé d'être expulsé de son appartement et qui enseigne à son fils Mika, c'est donc Kassemot Eklin, qui lui rêve de devenir comédien. Par exemple, l'arnaque au porte-à-porte. Comment, par exemple, refourguer du pinard trafiqué à des mères au foyer. Moi, j'ai vu un portrait assez touchant de la relation père-fils. Xavier ?
Moi, j'aime beaucoup le film. Il est modeste. Hein. C'est pas
pourtant,
il n'y
a pas ni Sandrine, ni...
ni Mylène, mais de temps en temps, Mylène. De temps en temps, je fais des infidélités. Je ne suis pas nécessairement toujours fidèle. Je trouve que... D'abord, c'est un peu tous les thèmes que Xabi ou Chabi, je ne sais jamais très bien comment on dit.
Je crois qu'on dit Chabi, mais moi, si je ne dis pas Xabi, on va pas...
A mis en place dès son premier film qui était 8 fois debout et puis qu'il a poursuivi avec les conquérants. C'est-à-dire, il y a toujours cette idée du déterminisme, comment s'affranchir un tout petit peu de la logique parentale, comment essayer de tracer sa voie, comment essayer de résoudre un tout petit peu, de retrouver l'affection des gens qu'on a aimés. Et tous les sujets sont là dans une fiction qui est souvent drôle, qui est très à l'anglaise, qui je trouve une élégance, une finesse, une délicatesse. Alors effectivement, c'est pas en termes de mise en scène extraordinaire, mais c'est toujours à la bonne distance des personnages. Moi, j'ai trouvé ça très touchant. Il y a des petites histoires délicieuses. À un moment, ils vont cambrioler une vieille mamie et Kassemot Eklin est ravi parce qu'il sort avec une grosse liasse d'argent. Donc, il est fou de joie. Il pense avoir fait très bien ce que son papa lui demandait et c'est une liasse de francs. Donc, il a volé le mauvais truc.
C'est quand même des pauvres qui escroquent des pauvres. Hein.
C'est là où le film est plutôt réussi. C'est qu'évidemment, la petite mamie, elle avait encore sa liasse de francs qu'elle n'avait jamais portée à la banque. Et je trouve qu'il y a une certaine acidité. C'est ouais, mais il n'y a pas de méchanceté pour moi. Je trouve qu'au contraire, le social en berne, il est là, il est dans ces petites situations-là. Et je le trouve assez réussi parce que ces arnaques ne lui font pas vivre. Il va être expulsé. Sa femme ne sait plus comment essayer de refonder la famille. Et je trouve que sans lourdeur et sans pesanteur, il dessine assez joliment, effectivement, une classe de gens laissés pour compte, comme ça, sur le carreau, dont essaye, effectivement, de s'affranchir le personnage du fils. Donc, plutôt une vraie tendresse pour ce film.
Tu disais Chabi plutôt que Xabi, mais je crois qu'il est de Bayonne et que c'est un prénom.
Il est basque, oui, c'est ça.
Oui. Ouais. C'est un prénom qui est basque. Pierre.
Moi, j'aime bien ce cinéaste, surtout 8 fois debout que tu rappelais, qui était
moi,
bien.
Moi, j'aime bien l'écrivain. Il a fait deux livres. Plusieurs, mais un qui s'appelait Fourbi, qui était formidable, les reprises des hostilités.
Oui.
C'est un excellent.
Oui. Mais en tout cas, je l'aime bien. Là, je trouve ça un tout petit peu mou. C'est-à-dire que. En même temps, il faut que les escrocs, il faut qu'ils nous soient sympathiques. Or, là, par exemple, la scène...
La Kad Merad est plutôt sympathique.
Oui, Kad Merad est un peu sympathique. Moi, j'aime bien surtout Kassemot Eklin, que je trouve vraiment très bien. Et son personnage est intéressant, il veut s'en sortir, etc. Le grand problème, et je ne sais pas si vous y avez pensé, c'est que j'ai regardé au générique, c'est un scénario original de Chabi Molia et de collaboratrice, je crois, ou un collaborateur que j'ai oublié. Mais ça me rappelle vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup un film de Costa Gavras qui s'appelait « Conseil de famille ». Avec Johnny Hallyday, Fanny Ardant et Guy Marchand, qui était absolument la même histoire, c'est-à-dire une famille avec Johnny Hallyday qui jouait le rôle de Kad Merad en quelque sorte et qui forçait sa progéniture à faire des escroqueries. Je me suis dit tiens, c'est bizarre que personne n'en ait parlé parce que j'ai pas vu ça écrit nulle part. Je trouve ça, à part Kassemot Eklin, qui a vraiment un destin, qui veut s'en sortir, et j'aime beaucoup les scènes où il dort dans sa cabane, où il est obligé d'exiler. Je trouve ça très joli, mais je ne trouve pas qu'il y ait... Il faut qu'il y ait un peu de panache pour que l'on prenne parti pour les escrocs contre leurs victimes, et je n'ai pas réussi à trouver ce panache dans ce film-là.
Charlotte ?
Mais j'ai pas du tout pensé à Conseil de famille, mais c'est plus immédiatement les comédies sociales de Ken Loach auxquelles on peut penser, et je trouve que le film doit beaucoup quand même à ce duo, c'est-à-dire qu'effectivement... dans cette relation père-fils aux responsabilités inversées, puisque c'est plutôt le fils qui est responsable, en fait, dans le duo, qui essaye d'empêcher son père de faire des conneries, sauf qu'ils s'y prennent comme des manches, donc ça rate un petit peu. Les deux sont absolument formidables. Et moi, le plaisir que j'ai eu vraiment avec ce film a été de voir cette alchimie entre ces deux acteurs qui marchaient vraiment bien. Après, je trouve qu'il y a, comme disait Xavier, une sorte de douceur, il y a quelque chose de doux-amer dans le film qui est assez réjouissant. Mais je trouve qu'à l'arrivée, c'est un petit peu convenu quand même. Il n'y a pas beaucoup de surprises. Donc on passe un très joli moment sans être bouleversé outre mesure.
Daniel.
Oui, moi, ce que j'aime chez ce cinéaste, parce que c'est vraiment sa marque, c'est les beautiful losers. C'est vraiment les laisser pour compte, mais qui, d'une façon ou d'une autre, 8 fois debout, c'était aussi la même chose, le mélange des genres, c'est-à-dire quelque chose de profondément dramatique au fond, puisque ce sont vraiment, c'est les prolétaires, et ils n'ont plus de fric, ils vont être expulsés, enfin bon, effectivement, c'est la comédie sociale, qui n'est pas drôle. Et puis, là, il y a comme ça, une sorte de...
Mais pour le coup, avec un humour qu'il n'y a pas chez Gagnoche, voilà, que tu
voilà.
citais.
Voilà, et donc, oui. une fantaisie de la vie qui ressort, et qui les sort de leur boue et de leurs soucis. Et là, je trouve qu'il y a une vraie tendresse pour ces personnages. Moi, j'adore Kassé Motekla depuis l'enfance, depuis là-haut. Enfin, je veux dire, c'est un acteur magnifique. Et Kadmerat se régale. Il aime le personnage qu'il est. Il aime le personnage qu'il joue. Et ça, je trouve que c'est toujours assez délicieux.
Comme des rois, donc, de Xabi ou Chabi. Molia, toujours pas de réaction sur ce film. Transit, un film de l'Allemand Christian Petzold, à qui on doit Phoenix et Barbara, et c'est avec Frank Rogowski, Godehard Giese et Paula Beer, qui était, souvenez-vous, la jeune fille assez impressionnante, dont j'étais tombé un peu amoureux, dans France de François Ozon. Dans les premières images, on a un choc, on est à Marseille aujourd'hui, c'était à l'époque Taxi 5. On voit même le fameux Mucem d'ailleurs,
oui.
Ce musée extraordinaire. Mais la ville s'apprête à être occupée par les fascistes et les flics, qu'on sent quand même de futurs excellents collabos, pourchassent les réfugiés qui rêvent d'embarquer pour l'Amérique. En fait, Petzold transpose de nos jours le roman autobiographique d'Anna Segers, je rappelle, allemande, juive, communiste. Elle avait tenté de faire libérer son mari qui était interné au camp du Vernet. Et en 41, elle avait embarqué à Marseille pour gagner le Mexique. Et dans Transit, un Allemand, Georg, c'est donc Rogowski, vole les papiers d'identité d'un écrivain allemand qui s'appelle Wedel dans l'hôtel marseillais où il vient de se suicider dans sa baignoire. Et avec ses papiers, donc, il compte bien partir pour le Mexique. Avant l'arrivée des fascistes, les choses vont se compliquer. Je ne vais pas entrer dans le détail. Quand il va rencontrer l'ex-femme de Wedel, c'est Paula Beer, qui recherche son mari, qu'elle croit toujours vivant. Un récit qui est raconté en voix off par Jean-Pierre Darroussin, qui dit Marseille, évidemment, dit Darroussin. Et en même temps, cette version contemporaine de Marseille sous l'occupation...
Marseille et Paris, beaucoup. Le début du film est à Paris.
Oui, mais cette version de Marseille sous l'occupation... donc directement adapté du livre de Segers, m'a gêné parce qu'à un moment donné, ça devient presque tellement démonstratif et lourd que l'idée du départ m'a semblé un tout petit peu abîmée.
Ah non, moi, j'ai vraiment reçu ce film avec vraiment un choc parce qu'il est totalement incroyable et je trouve que Petzold réussit à le rendre à tout moment crédible. C'est-à-dire, oui, on a Marseille de nos jours. Et hop, on est en 42.
T'as les voitures de flics d'aujourd'hui.
Voilà, et ce choc ce temporel, qu'est-ce que ça dit? Ça dit exactement le cœur du film, c'est-à-dire que ça recommence toujours. Ça recommence toujours, on est toujours le clandestin, le réfugié, le juif, le migrant, d'un système d'oppression, quel qu'il soit, où qu'il soit, et quelle que soit l'époque. Et ça, c'est pour moi le cœur du film, et je trouve que ça voyage tout le long, et que cette envie de partir, effectivement, ces transits, ces visas, ces commissariats, et puis tout à coup, il y a cet amour qui naît, et effectivement, qui est le seul lien possible, vital, qui permet de survivre. Bon, est-ce qu'on part, est-ce qu'on part pas, est-ce qu'il fallait partir, est-ce que tout le monde part? Ça n'est même plus le problème parce que l'amour est là. Et moi, j'ai été vraiment émue.
Même la manière dont le consulat du Mexique donne les papiers, favorise évidemment les écrivains.
Voilà, et cet écrivain qui n'est plus et qui est de plus en plus présent, je trouve que c'est d'une intelligence et vraiment, et que ce que ça dit profondément, moi, m'a beaucoup touchée.
Charlotte.
J'ai été comme Daniel très impressionnée et troublée, surprise par cette atmosphère extrêmement troublante d'occupation. C'est-à-dire que c'est ici et en même temps ailleurs, c'est hier et en même temps aujourd'hui. On ne sait pas trop, cette espèce d'espace-temps comme ça, de pays occupé, mais avec les références et les visuels de Marseille aujourd'hui. Je trouve ça extrêmement fort et puissant dans tout ce que ça dit de l'exil. Après, il y a au cœur du film une sorte de trio amoureux et un fil un peu romanesque qui, là, pour le coup, m'a beaucoup moins séduit, qui, pour moi, manque beaucoup d'incarnation, de chair et moins intéressant que l'aspect politique.
Pierre ?
Je suis comme Daniel, je trouve ça absolument magnifique. Non seulement ce que vous avez dit sur la voix off, par exemple, qui pourrait être ridicule, elle ne l'est jamais.
Parce qu'elle est sobre.
Marseille.
Elle est sobre, mais elle est littéraire, maintenant.
Oui, oui, elle est littéraire, mais au très bon sens du terme,
elle
forcément.
Elle est volontairement littéraire.
Mais par exemple, mais même les personnages, tout ce qui se joue entre les personnages sont des solitaires qui veulent partir, qui n'arrivent pas à partir, qui sont condamnés à ne pas partir, tandis que d'autres voudraient partir. Moi, je trouve que pratiquement tout le film, bon, c'est un tout petit peu intello, si j'ose dire, mais en même temps, la façon dont il filme Marseille est formidable. Moi, je trouve que c'est un film absolument remarquable.
Xavier,
très rapidement, moi, je trouve que toutes les propositions formelles dont vous venez de parler sont intéressantes, mais que ça ne fait pas un film. C'est-à-dire que j'ai un vrai problème d'incarnation. Si. Là, je l'ai revu, parce que je l'avais vu à Berlin, où la voix off était en plus sous-titrée, donc j'ai voulu me dégager de cela. Et il y a un moment, et j'adore Petzold, donc je suis vraiment dans l'embarras. J'espérais que le miracle se fasse. Et je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est très plat, c'est très illustratif. Je ne vois pas l'ailleurs. Je ne vois pas l'appel du hors-champ. Je ne vois pas le transit. Je vois effectivement une petite tragédie.
Non, je vois pas le transit, c'était pas nécessaire.
On va apprécier du Charlotte en début d'émission, on peut tout faire aujourd'hui.
Et Paul Imbert est très bien, j'ai oublié.
Et je trouve que la dimension prémonitoire du roman qui sert quand même, qui ponctue le récit, puisqu'on a l'impression qu'il a écrit l'histoire qui est en train de se jouer devant nous, aurait pu donner en termes de cinéma ce qu'il était capable de faire dans Barbara ou dans Phoenix.
Mais
je le fais. Mais je te promets de l'avoir cherché, malheureusement, de ne pas l'avoir trouvé, et je dis la mort dans l'âme.
Christiane Petzold, et j'avais inscrit, malheureusement, on aura à peine le temps de l'évoquer, c'était Foxtrot de l'Israélien Samuel Maoz avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonatan Shireh, un film qui a reçu le grand prix du jury à la Mostra, qui commence à Tel Aviv. Il y a deux officiers qui sonnent à une porte. Ils viennent annoncer à un couple la mort de leur enfant qui avait 20 ans et qui faisait son service militaire sur une ligne de démarcation. Ligne d'ailleurs de démarcation totalement improbable où ne passent que des chameaux. Ce qui d'ailleurs fait de ce film un mélange assez rare, je trouve, de burlesque et en même temps d'une gravité incroyable. Un film qui a été très mal reçu par Israël.
On comprend.
La ministre israélienne de la Culture a même dit que c'était un film qui salissait l'image de l'armée et qui réussit incroyablement à, même dans une scène qui se passe là-bas sur cette ligne, à mêler la Torah et Playboy. J'en dis pas plus. Mais vraiment, en quelques mots, Pierre, est-ce que tu le conseilles comme moi,
oui,
ce film ?
Oui, je le conseille. Foxtrot. Je le conseille avec juste un regret, c'est que dans la première partie, il se livre à quelques facéties de caméra qui me semblent un petit peu inutiles. Et plus le film progresse, plus il s'épure, d'une part, et il devient exactement ce que tu as dit.
Qui est construit comme une tragédie en trois actes.
En trois actes. Le deuxième acte est absurde et magnifique, voilà. Et le troisième est épuré en plus, ce qui n'est pas le premier.
Et à la troisième, on trouve... Ça, tu dois être content, la solution de l'énigme, c'est-à-dire comment et pourquoi la mort, ce jeune appelé. Voilà. Xavier ?
Moi, je vous le laisse. Je l'ai vu à Venise, je l'ai revu à Paris au cas où, là aussi, la grâce me tomberait dessus. Et j'ai l'impression de voir un spectacle au Théâtre de Chaillot. Il y a toujours des spectacles au Théâtre de Chaillot, Charlotte ?
Ah,
la danse.
Oui, Xavier,
c'est
mais
la danse.
Si on avait des aussi beaux que ça, on serait
avec eux. Alors vraiment pétri de symbolisme hyper lourd, c'est démonstratif, il veut absolument prendre le pouvoir sur le spectateur, sur le récit, sur la démonstration, sur la politique. Ça se fait sans moi au bout d'un moment, mais vraiment.
En plus, je n'ai pas vu de Mylène Farmer dans ce film. Si, il y a un chameau qui passe à un moment donné.
Mais comment c'est dégueulasse,
Daniel.
Bon, alors c'est sans Xavier, mais c'est avec moi. Moi, je trouve ce film absolument bouleversant. Surtout cette partie du checkpoint, cette guerre sans la guerre, cette attente absurde.
Vraiment le conteneur qui bascule.
Il vit dans un conteneur qui bascule. Bah oui.
Et le foxtrot qui arrive. Et le foxtrot garde longtemps.
Incroyable avec cette danse où on revient toujours au même endroit.
Attention, ça veut dire quelque chose.
Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire beaucoup. Et que ce soit un film israélien, c'est quand même très important parce que ce que ça dit d'Israël, de la mauvaise conscience, de Tsahal, sans qu'il y ait un coup de feu, je trouve que c'est absolument étonnant et important.
Je trouve le film, moi aussi, extrêmement puissant. Je rejoins un peu Pierre sur la virtuosité de la mise en scène dans la première partie qui confine un peu au maniérisme. Voilà, c'est dommage. un peu too much. Mais alors, petit à petit, j'ai été absolument bouleversée par tout ce que ça racontait, portée par le jeu des comédiens, l'humour un peu absurde, un peu à la Elie Souleymane qui arrive dans la deuxième partie. Et moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment marquée, que je trouve assez incroyable, c'est qu'au-delà des plans qui sont très structurés, très métaphysique et tout ça, il y a un travail sur le son complètement fou, c'est-à-dire que la première partie, on n'entend jamais le son de la ville, c'est dans un silence, là pour le coup, quasi théâtral,
sidéré,
et ça n'est qu'à
sidéré,
la fin que la vie reprend par les bruits de la ville qui reviennent dans cette maison, c'est bouleversant.
Foxtrot de l'Israélien Samuel Maoz. Allez, un conseil pour finir cette émission, et on commence avec Charlotte.
Un conseil japonais, une espèce de saga en 5 volets rassemblés en 3 films. Les 2 premiers sont sortis la semaine dernière et le 2 et le 3 sortent là. Il s'agit de Senses, de, alors là je note Ryusuke, pardon pour la prononciation, Hamaguchi, merci Xavier.
Qui sera d'ailleurs au Festival de Cannes.
Voilà, dont le prochain film sera en compétition au Festival de Cannes. Et là, il ne faut vraiment pas rater cette grande fresque autour de 4 amis à peu près quarantenaires qui vivent à Kobe. Et le réalisateur, avec une délicatesse infinie, va sonder les émotions, les cœurs, les sentiments de ces 4 femmes et parler bien évidemment de la condition de la femme au Japon à travers 4 profils différents. On pourrait parler de Romer, de Hong Sang-soo, enfin voilà, mais on va parler maintenant de Hamaguchi, qui est vraiment un cinéaste à suivre.
Et c'est 5 films, hein, c'est ça ?
Oui, alors les 2 premiers sont sortis et sortent le 3, 4 et 5, là, cette semaine et la semaine prochaine. Senses, à ne pas rater.
Le conseil de Daniel.
Le fantastique événement Fassbinder. Donc la rétrospective intégrale à la Cinémathèque française jusqu'au 13 mai. La sortie en salle, beaucoup de films.
8 heures, non ? Oui. Ce film de 8 heures.
Non. Et le magnifique travail de Carlotta. Carlotta qui sort effectivement tous les films, mais surtout qui sort en 3 DVD, l'extraordinaire série télé inédite de Fassbinder. On n'a jamais vu. 8 heures ne font pas un jour. Voilà. Mais c'est extraordinaire. C'est inouï. Avec une jeune Anna Chigoula en blonde, avec une perruque blonde. Absolument. Et c'est une sorte de fresque prolétaire qui est vraiment, mais qui est surtout, c'est un choc inouï parce que c'est plutôt d'humeur heureuse. C'est Fassbinder dans ce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'il pourrait être, c'est-à-dire dans des personnages qui vivent, qui aiment, qui sont heureux. Donc c'est une découverte inouïe et le travail de Carlotta est extraordinaire, la rétrospective est intégrale, ça sort en région, en salle, c'est inouï. Voilà, Fassbinder.
Mon conseil, c'est un livre qui ne fait pas 8 heures mais 810 pages, c'est le dictionnaire amoureux du Festival de Cannes de Gilles Jacob. Je rappelle qu'il y est entré il y a 40 ans, il en a été le délégué général, le président et le président d'honneur. Et là, il revient sur les grands films que le festival a favorisés, souvent d'ailleurs primé, avec une palme spéciale pour l'année 79. Je peux pas citer, mais il y a Apocalypse Now, Le Tambour, Les Moissons du Ciel, Manhattan, Prova d'Orchestra, Le Grand Embouteillage, Rhapsodie Hongroise, etc. Il fait le portrait de ses copains Fellini, Woody Allen, Jane Campion, Terrence Malick ou François Truffaut. Il dit son amour, évidemment, à Anouk Aimée, Deneuve, Adjani, Binoche, Marion Cotillard. Et il n'oublie pas, à la fin à la lettre W, puisque c'est un dictionnaire, d'évoquer Harvey Weinstein, dont il écrit « Il y avait quelque chose dans son physique et dans ses manières qui me dégoûtait ». Et c'est un homme qui dit ça. Dictionnaire amoureux du Festival de Cannes, Gilles Jacob, et c'est chez Plon. Le conseil de Xavier.
Comme Charlotte et Daniel m'ont déshabillé de mes conseils, on s'était changé 3 mots avant l'émission, j'ai le plaisir de défendre. Ouais, mais j'ai le plaisir du coup de défendre un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Takara, la nuit où j'ai nagé. C'est un film franco-japonais de Damien Manivelle et Koe Igarashi. Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui part avec un dessin sous le bras un matin pour aller le porter à son papa qui travaille dans une poissonnerie. Et c'est une odyssée silencieuse mais poétique au possible d'un petit garçon dans un univers trop froid, trop grand pour lui. Il va peu à peu appréhender les choses. C'est vraiment ce que le cinéma, quand il n'est pas nécessairement inductif, comme dans Foxtrot par exemple, peut permettre d'éveil et de délicatesse et de subtilité. Voilà.
Pierrot.
un film qui s'appelle La Révolution silencieuse de Lars Kraume. Ça se passe à Berlin-Est en 56. Ce sont des étudiants qui apprennent que la Hongrie a été envahie et qui font une minute de silence. Et cette minute de silence dans ce lycée de Berlin-Est va absolument bouleverser leur vie. C'est pas un très grand film au point de vue mise en scène, mais sur ce que ça dit au point de vue scénario, c'est vraiment formidable. Et donc ça s'appelle La Révolution silencieuse.
Tous ces conseils sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Charlotte Lipinska, Daniel Eman, Pierre Murat, Xavier Le Herpeur pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Ce soir, au Charles Trenet à la technique, et je les remercie, Stéphane Desmonts, Philippe Thibault, ainsi qu'Éric Villenfin. La réalisation était signée Didier Lagarde. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, c'est le jeudi 24 mai. C'est à 20h, c'est au studio Charles Trenet de la Maison de la Radio pour deux émissions, l'une consacrée au cinéma, l'autre au théâtre. Dans une semaine, on parle de livres et même de non-livres. Et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.